Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Un tracé de frontières incertain est souvent source de conflits, comme en atteste la ligne d'Uran séparant l'Afghanistan et le Pakistan. Plus près de notre sujet d'aujourd'hui, la séparation mal définie entre le Soudan et le Sud-Soudan ne fait qu'alimenter les tensions. Le 16 mars dernier, les électeurs de Crimée se prononçaient par référendum en faveur du rattachement de la province ukrainienne à la Russie, ce qui fut fait sous le regard impuissant de la communauté internationale. Un tel événement peut-il se produire en Afrique ? Que se passerait-il par exemple si l'on demandait par référendum à la minorité rwandophone du Kivu en République démocratique du Congo dans quel pays elle souhaite vivre. Aux menaces de conflit que fait peser le tracé des frontières africaines, réalisé il y a plus d'un siècle lors de la conférence de Berlin de février 1885, s'ajoute celle alimentée par la richesse des sous-sols. Bien sûr, les frontières ne sont pas l'unique problème des pays africains, davantage confrontés à l'absence d'État, d'institutions viables et démocratiques, mais la question figure en bonne place des priorités de l'Union africaine et de son programme Frontières, né en 2007 à la suite de l'adoption par les chefs d'État du continent d'un mémorandum visant à accélérer la délimitation et la démarcation des frontières, processus qui doit s'achever en 2017. Pour comprendre l'importance du sujet, il faut savoir que l'Afrique compte 80 000 km de frontières, mais que seuls 30% sont précisément démarqués. À noter enfin que les anciennes puissances coloniales sont associées à ce travail de délimitation. À l'instar de l'Allemagne, la France a en 2013 remis des copies de ses archives relatives aux frontières africaines. D'autres pays comme la Belgique et le Portugal ont également été sollicités. Regard sur les questions frontalières en Afrique avec nos invités. Par téléphone, Christian Bouquet, professeur émérite de géographie politique et de développement à l'université Bordeaux-Montaigne et au sein du laboratoire Les Afriques dans le monde. Bonjour.
Bonjour.
Et Michel Fouché, géographe et diplomate titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales et expert auprès de la division paix et sécurité de la Commission de l'Union africaine, auteur de Frontières d'Afrique pour en finir avec un mythe aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
C'est un peu un coup de colère que vous poussez, Michel Fouché, avec cet ouvrage. Alors d'abord un constat, les frontières d'Afrique ont mauvaise réputation, mais surtout votre idée est de déconstruire l'affirmation du caractère pénalisant des frontières africaines et en finir, dites-vous, avec le mythe des cicatrices coloniales responsables de tous les maux.
Je vais vous donner un exemple. La frontière Nigeria-Cameroun a été parfaitement bien délimitée et ça a été confirmé par la Cour internationale de justice. En général, les frontières issues de négociations entre des empires différents, britanniques et allemands, puis français en l'occurrence, ont abouti à des résultats qui sont juridiquement clairs. La question, c'est l'exercice ou non par les États aujourd'hui indépendants en 2014 de leur fonction régalienne de protection des populations périphériques, de surveillance, et on voit que c'est pas le cas. Donc là, la question, c'est pas le tracé est accepté, légitime. La question, c'est l'exercice d'une fonction régalienne sur la périphérie de son territoire. C'est le principal problème frontalier, si vous voulez, sur le continent africain aujourd'hui, c'est l'incapacité des États, pour toute une série de raisons, à contrôler de très longues frontières, de très vastes périphéries, surtout dans des situations de tension avec des acteurs, des perturbateurs transnationaux. C'est là-dessus que j'insiste. Frontières d'origine coloniale, assumées, c'est le principe de l'intangibilité de 64, beaucoup mieux respectées qu'en Europe. Mais par contre, aujourd'hui, des États africains qui sont en charge, en quelque sorte, de leur territoire et qui ont beaucoup de difficultés à exercer cette fonction régalienne.
Alors, Christian Bouquet, je me tourne vers vous. Une réaction à ce que vient de dire Michel Fouché et on en viendra aux raisons qui expliquent ce qu'évoque à l'instant Michel Fouché d'incapacité des États à contrôler les périphéries. Christian Bouquet.
Oui, c'est exactement ça. Michel Fouché est en train de mettre le doigt sur la thématique des zones grises, c'est-à-dire ces régions qui sont lointaines, périphériques, donc marginales, et les États qui sont paupérisés tout de même depuis 20 ou 30 ans n'ont plus tellement les moyens et parfois pas tellement non plus la volonté d'y installer une administration fiable de telle sorte que ces marges finissent par échapper à l'autorité du pouvoir central. C'est ça le seul problème des frontières africaines aujourd'hui.
Alors Michel Fouché, manque de moyens, manque de volonté des États ?
Alors après, on ne peut pas généraliser cette situation aux 54 États africains. Il y a une douzaine d'États qui ont une vision politique, des capacités stratégiques et des armées dignes de ce nom. On peut en faire la liste.
Quelques-uns.
Je pense à l'Éthiopie, par exemple, qui a des problèmes de frontières, mais qui a maintenant une capacité d'intervention extérieure, et notamment sur la ligne entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, dont on reparlera. Le Nigeria, d'une certaine façon, avait des capacités d'intervention extérieure, mais le comportement de l'armée et la corruption d'une partie de l'état-major expliquent la situation catastrophique dans le Nord-Est. Le Tchad a des capacités d'intervention militaire et agit actuellement quasiment comme une puissance régionale. Et puis je vois que l'armée algérienne a décidé de sortir de ses frontières en dépit de l'interdiction constitutionnelle qui pèse sur elle pour remettre de l'ordre dans le sud-ouest du Fezzan, c'est-à-dire de la Libye, hein, la problématique qui vient d'être évoquée, des zones grises, c'est tout à fait fondamental, parce que ces zones grises deviennent stratégiques, ça devient des sanctuaires. Les gens d'en face, ces acteurs transnationaux, qui ont des projets politiques, ont aussi une capacité tactique, un sens du terrain tout à fait extraordinaire. L'idéal, c'est la frontière périphérique transfrontalière, et généralement peuplée par des minorités maltraitées par les centres. Et c'est d'autant plus grave quand ça met en quelque sorte en opposition des populations d'un côté négro-africaines, de l'autre côté arabes ou touareg, qui sont quand même séparées par ce gouffre abyssal des séquelles de l'esclavage. Il faudra bien aussi, le prochain livre, ça serait presque là-dessus, mais c'est pas moi qui le ferai, la traite interne en Afrique est le combustible de ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine et de ce qui se passe au Soudan. Tant que ça ne sera pas réglé, vous aurez des problèmes de construction nationale dans ces États qui se trouvent, je dirais, sur cette bande intermédiaire, cette frange sahélo-saharienne, qui était quand même celle de toutes les pratiques esclavagistes qui remontent en fait à la période des pharaons.
Christian Bouquet.
Oui, on pourrait même ajouter à cette thématique de la traite interne l'exemple du Mali, bien entendu, où l'une des principales raisons de non-entente entre les deux grandes communautés, c'est les mauvais souvenirs liés à l'esclavage précolonial. Alors c'est vrai qu'il va falloir sortir du mythe des frontières et poser des problèmes qui jusqu'à présent, malheureusement, restent un peu, même entre nous, et peut-être même surtout entre nous, universitaires, un peu tabous.
Alors, Michel Fouché, est-ce qu'il faut distinguer dans ce que vous venez de développer, notamment autour de l'idée de la bande sahélo-saharienne, finalement, entre, pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, une véritable différence entre le Nord et le Sud ?
Oui, bien sûr. D'abord, il y a le problème entre l'Algérie et le Maroc, qui est toujours pas réglé.
Sur une question du Sahara occidental.
Sur le Sahara occidental, mais même la frontière bilatérale au nord n'a jamais été tracée. Je vous rappelle que le traité de l'Alia Marnia de mars 1845 ne fixe la frontière que sur 165 kilomètres, hein, dans la région de la vallée de la Moulouya, hein, entre Oujda et Tlemcen. Donc c'était en quelque sorte le Maroc et l'Algérie utiles. Et ensuite, dans l'article 6 du traité, on lit cette chose merveilleuse. Nous avons donc un territoire sans eau qui est inhabitable et donc sa délimitation est superflue. Et donc toute la partie de algéro-marocaine au sud des 165 kilomètres n'a jamais été vraiment délimitée. Il y a eu des tentatives militaires, après on a trouvé du fer, ça a compliqué les choses, l'irrédentisme marocain, tout ça, ça a donné lieu à la guerre des sables d'octobre 1963, entre l'Algérie et le Maroc, avec des interférences extérieures, on trouvait l'Égypte, Cuba, on trouvait la Syrie, et c'est dans ce contexte que l'Organisation de l'Unité Africaine, à l'époque présidée par Alié Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, et Mobido Keïta, déjà le Malien, impose un cessez-le-feu, calme l'irrédentisme marocain, et adopte quelques mois après ce fameux principe, qui est imparfait en termes de rigueur juridique. Il considère que les frontières africaines sont une réalité intangible et qu'on doit les maintenir dans l'état où elles sont au moment des indépendances. En fait, il aurait été préférable de parler d'inviolabilité, mais le terme exact, c'est réalité tangible. Et ça va être le principe, en fait, c'est le principe latino-américain de l'uti possidetis, hein, statu quo au moment des indépendances. En fait, au moment des indépendances, il y a eu énormément de changements, parce que toutes les fédérations ont éclaté, notamment entre le Côte d'Ivoire, la Haute-Côte et la Basse-Côte, l'Afrique de l'Ouest a éclaté, l'Afrique de l'Est, etc., les fédérations britanniques. Donc il y a eu quand même beaucoup de modifications, mais ce principe a été respecté. C'est ça ce qui est tout à fait extraordinaire, une espèce de sagesse, là, principe juridique, sauf dans le cas de l'Érythrée, Mais l'Érythrée, au fond, c'était une vieille colonie italienne. Dans le cadre du sud-ouest africain, mais là, il y avait un système de mandat, c'est devenu la Namibie. Et, bien sûr, la grande exception, c'est le Soudan. Mais ça, c'est une invention du département d'État, des évangélistes et d'Hollywood. D'Hollywood. À toute une pression, et on voit le résultat absolument catastrophique. Mais de toute façon, le Soudan a toujours été en situation de tension interne extrêmement forte, en particulier parce que vous avez un groupe intermédiaire, notamment dans le Darfour et le Kordofan, de noirs musulmans, qui sont en quelque sorte pris en otage entre deux représentations socio-historiques.
Alors, les exemples que vous venez de citer, Michel Fouché, je me tourne vers vous, Christian Bouquet, mettent à mal finalement cette réalité d'intangibilité des frontières. Est-ce qu'on peut parler de précédents et qu'est-ce qui risque de découler en particulier de cette situation, notamment du Soudan, avec l'indépendance du Soudan toute récente, Christian Bouquet ?
Ben, on pense tout de suite au Somaliland, hein, puisque c'est une partie de la Somalie qui s'était proclamée indépendante en 1991 pour de bonnes raisons, puisqu'il ne s'agissait pas d'une ancienne colonie italienne, mais d'une ancienne colonie britannique, et qui fonctionne depuis 1991, très bien d'ailleurs, avec une alternance démocratique, et qui malheureusement n'est reconnue par personne. Donc logiquement, le Somaliland devrait accéder assez rapidement au même statut que le Sud-Soudan. Ensuite, les autres revendications, alors là, ça risque d'être ce qu'on craignait le plus à l'époque de la charte de l'OUA, c'est-à-dire l'ouverture de la boîte de Pandore. Oui. Il va falloir réfléchir à tout ça. Et on le note bien lorsqu'il y a des crises africaines qui menacent l'intégrité des territoires, les États centraux immédiatement disent « mais nous sommes à l'intérieur d'un pays uni et unitaire, on le voit bien pour le Mali, on le voit bien pour la Centrafrique, à l'intérieur de nos frontières, qui sont des frontières, comme le disait Michel Fouché, parfaitement assumées aujourd'hui ».
Alors, Michel Fouché, je le disais en introduction, l'Afrique compte 80 000 kilomètres de frontières seulement.
82 000, parce qu'il faut ajouter la frontière entre les deux Soudans.
Tout à fait, donc 2 000 kilomètres en plus, donc 82 000 kilomètres de frontières, seulement 30% sont précisément démarqués. Quel est aujourd'hui le travail de l'Union africaine ? Le constat est qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'il est important que les frontières soient démarquées et vous allez nous dire en quoi c'est important et où est-ce qu'on en est de ce travail et où va-t-on, Michel
Fouché ? Lorsque la présidence de la Commission de l'Union africaine a été assumée par l'ancien président du Mali, Alpha Oumar Konaré, il a en effet, à partir de 1997, lancé ce programme frontière de l'Union africaine. Alors pourquoi ? Il avait été traumatisé par la guerre de Noël 85, extrêmement violente, entre le Mali et le Burkina Faso, à la suite d'incidents graves entre des peuls, en gros, et des éleveurs, et des paysans, autour des mares du Béli. Et là, il y avait vraiment un problème d'indéfinition, parce que les limites... on se trouve dans l'Empire français, l'AOF, l'Afrique occidentale française, et les gouverneurs ou les officiers en charge des cercles, les administrateurs, changeaient souvent les limites administratives. Sauf que ces limites administratives, au moment des indépendances, deviennent des fonds. Donc quel est le bon texte ? Alors ça va se calmer, la Cour internationale de justice va statuer. D'ailleurs, c'est tout à fait fascinant de voir que la Cour de La Haye recherche, moi ce que j'ai appelé dans un livre, l'instantané colonial. C'est-à-dire, quelle était l'intention du législateur, donc là c'est les années 20, au moment où il délimite le cercle qui est sous sa responsabilité. D'une certaine façon, la Cour internationale, il y a eu 8 jugements depuis les indépendances, confortent le tracé colonial. C'est la base. Alors Alpha Oumar Konaré est obsédé par cela. Alors en même temps, il est très panafricaniste en réalité. Il est sur ce courant qui était celui de Nkrumah, hein, beaucoup plus que le courant réaliste Senghor ou Fouad Boigny, qui était plus dans des logiques d'État à la française. Donc il y a quand même un esprit panafricain derrière tout ça. Mais l'idée, c'est d'encourager les États à démarquer physiquement leurs frontières, mais aussi à créer des facilités de passage, ce qu'on appelle dans l'Afrique australe, en Zambie par exemple, au Zimbabwe, le One Border Post, un poste de contrôle et non pas deux, faciliter la circulation des gens, faciliter les coopérations d'initiatives locales Et ça, ça marche très bien. Donc, c'est pas seulement Borné, c'est aussi, il y a une dizaine d'États qui sont dans cette action-là, avec le financement de la coopération allemande. Malheureusement, l'Agence française de développement ne s'est toujours pas intéressée à ce projet, malgré mes efforts. Et démarquer, faciliter l'action de la police, l'accès aux champs quand ils sont de l'autre côté, surtout quand ce sont des mêmes groupes ethniques ou linguistiques des deux côtés de la frontière, faciliter la circulation frontalière, l'émergence de marchés, ça parce que la frontière, au fond, est une opportunité extraordinaire, si vous voulez, transformer un obstacle en ressource. C'est ça la logique, c'est un programme qui marche bien. Alors, et on a fêté la journée des frontières le 7 juin dernier à Addis Abeba.
C'est ça presque le paradoxe finalement des frontières, en tout cas la nécessité et l'utilité de les démarquer pour finalement d'abord que les choses soient bien claires et ensuite, Christian Bouquet, ça permettrait de meilleures intégrations alors régionales, locales.
Ben oui, apparemment l'Afrique est actuellement partagée entre cette tentation de la balkanisation et puis en même temps, parce que le monde a beaucoup changé, et notamment à cause de l'économie de marché, le fait qu'il faut supprimer les frontières. Donc on voit des organisations économiques évidemment transfrontalières comme la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ou même la communauté économique des États d'Afrique centrale qui regroupent dans le premier cas une quinzaine de pays en gommant progressivement l'existence de ces tracés. Mais on n'en est pas encore tout à fait à ce point-là, pas aussi avancé que l'Union européenne ou que les accords américains. Et on constate que ces organisations comme la CEDEAO sont surtout en train de régler les problèmes politiques et les problèmes de crise plutôt que de mettre en place un véritable marché commun ouest-africain dans le cas de la CEDEAO. Mais on est, disons, dans la période intermédiaire entre ces deux phases, des frontières strictement tracées et puis des frontières qui s'ouvrent parce que ça va dans le sens de la marche du monde.
Michel Fouché, pour en revenir au travail de l'Union africaine, 2007, date butoir pour...
2017, oui, bon, on l'a déjà reculé une fois et on sera obligé de la reculer, mais peu importe. On a signé à Niamey il y a 2 ans, j'y ai participé dans la rédaction, une convention de coopération transfrontalière. Et en fait, la frontière, encore une fois, c'est une ressource. Il y a 2 exemples tout à fait extraordinaires, c'est Bénin. Bénin-Nigéria, Bénin c'est l'état entrepôt. Avec la crise en Côte d'Ivoire, tout s'est déplacé vers le port de Tema au Ghana et vers Cotonou. Donc ça irrigue et ça désenclave toute l'Afrique soudano-sahélienne. Et en même temps, c'est frontalier du Nigeria. C'est pas la même langue, c'est pas la même monnaie. Donc vous avez des micro-opportunités comme toujours. Il n'y a pas que entre la France et Luxembourg, on va acheter l'essence le dimanche au Luxembourg dans la plus grande station de service d'Europe. C'est quotidien. Et d'ailleurs, il y a une contradiction entre ce que vient de dire Christian Bouquet sur l'intégration régionale et l'intérêt des populations locales qui vivent, et notamment les femmes d'ailleurs, parce que c'est un travail de femmes, qui vivent de ces micro-différences de prix. Le sud du Niger échappe à la famine régulièrement parce qu'il accède aux ressources agricoles et aux marchés du nord du Nigeria. Ils vivent en symbiose. En plus, c'est le pays à Oussa, donc il n'y a aucune difficulté de circulation, mais il y a des obstacles monétaires. Et c'est la même chose dans le Kivu, par exemple, ou entre le Kenya et l'Ouganda, je l'ai observé. Vous avez une vitalité de l'économie locale. Et les gens savent très bien tirer parti des différences. Il y a des millions de gens qui vivent de ça. Il y a 80 marchés frontaliers avec des villes importantes en Afrique de l'Ouest. Vous avez aussi des corridors de transport entre le Rwanda et le Kenya, entre Johannesburg, Pretoria et Maputo. Donc, cette vie locale doit être préservée. Et heureusement, d'une certaine façon, l'intégration régionale un peu technocratique marque le pas. Donc l'idéal, c'est vraiment pas de répéter ce qui se passe en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest, c'est plutôt de faciliter la circulation. Alors ça commence sur l'axe qui est le plus important d'Afrique de l'Ouest, l'axe sur plus de 1000 kilomètres entre Abidjan et Lagos.
Vous voulez dire, Michel Fouché, pas de grand marché, et on va terminer la première partie de l'émission là-dessus,
ça détruirait des millions d'emplois.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Christian Bouquet et Michel Fouché dans quelques instants. À tout de suite.